Yasser Louati, cofondateur du CJL, Comité Justice et Liberté pour tous. Je tiens d'abord à saluer mon public qui m'est resté fidèle toutes ces années, de ceux qui m'ont connu dans ma banlieue sud, Villejuif, Vitry, et aujourd'hui au niveau national avec le CJL. Pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation, c'est celle que j'ai fondée en 2017, qui travaille sur la question des droits humains et des libertés publiques sur trois fronts. Il y a d'abord ce qu'on appelle la production de savoir, c'est-à-dire la recherche et l'investigation. Avant de mener un combat politique, il faut d'abord comprendre un phénomène, prouver son existence, l'analyser et publier des rapports, qui peuvent servir par la suite à notre travail de mobilisation. Le deuxième volet, après ces recherches et l'investigation, c'est l'éducation populaire. Le CJL fait le choix de ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire la mise en capacité d'agir des premiers concernés. Le but n'est pas que le CJL soit un point de passage obligatoire et qu'on crée un lien de dépendance avec les gens, mais plutôt de produire des outils de lutte et de les disséminer au plus grand nombre, c'est-à-dire par l'éducation populaire, comment repolitiser le terrain, comment partager des outils d'analyse, comment partager des outils de mobilisation, créer aussi des espaces d'échange. Nous manquons cruellement d'échanges, nous pouvons débattre entre nous sans craindre d'être disqualifiés ou d'être exclus ou d'être voire même harcelés. Donc l'éducation populaire, c'est vraiment cet espace où nous réfléchissons ensemble, nous pensons ensemble et trouvons les solutions ensemble sur comment affronter un problème commun. Ça peut être l'islamophobie, ça peut être la négrophobie, la romaphobie, toutes sortes de racisme, les violences policières, l'instauration d'un état de surveillance permanente, comme on l'a vu avec la loi de 2015, la loi renseignement et depuis l'état d'urgence, et aujourd'hui avec le Covid-19, l'état d'urgence sanitaire. Le but, c'est que le CJL soit la plateforme qui facilite soit la production, soit la transmission de savoir. C'est ce qui permettra à tout un chacun d'agir à son niveau, sans nécessairement dépendre de quelqu'un pour lui expliquer la vie, lui dire comment ce qu'il faut faire. Le troisième point, c'est le choix de ce qu'on appelle l'organisation collective, c'est-à-dire au lieu de parler au nom des autres, c'est comment est-ce que nous pouvons nous organiser pour pouvoir porter un discours commun et le faire appliquer et le défendre. Alors le CJL a déjà produit des enquêtes, hein. On a les différentes investigations qui ont été publiées, à commencer sur la mairie du 20e, l'affaire Sabine Vorin. On a vu que grâce à l'enquête du CJL, le DGS a été mis à pied, puis a été exclu de la mairie. Bien sûr, il n'a été pas racheté ailleurs, c'est peu dire. On a eu l'enquête publiée sur la police municipale de Colombes, sa violence, son budget disproportionné pour la ville, son racisme, son harcèlement sexuel en son sein, les dénonciations calomnieuses qui concernent des agents musulmans, etc. On a publié aussi l'enquête concernant l'hôtel de ville de Paris. On a vu que les militants de la fachosphère sont en poste, à des positions de management, dont l'un d'entre eux, que je ne citerai pas, est carrément en charge des carrières et des promotions des agents qui sont la plupart d'origine africaine. Et donc on voit que cette personne-là s'en est donnée à cœur joie pour discriminer, à tel point qu'on a eu l'affaire Bedim Bouz qui a fait une dépression, qui a été exclu parce qu'il avait été pendant des années harcelé par son supérieur. On fait aussi un travail d'enquête au niveau international. Tout ce qui touche aux droits humains et aux libertés publiques, on le publie. On a fait une enquête sur les Émirats Arabes Unis et leur ingérence dans la politique française, leur financement de Marine Le Pen, le financement de l'extrême droite européenne, américaine et britannique, et aussi, bien sûr, son implication dans les printemps arabes et aujourd'hui dans les manifestations en Algérie. On a vu que les Émirats se sont mobilisés pour ne pas que les manifestations qui appellent à plus de démocratie et de justice sociale puisse aboutir. Donc tout ça pour vous donner une idée que le CJL en tant que soi n'est pas une organisation qui se veut être un point de passage où chacun vient pleurer et venez me défendre et voici l'argent. On ne s'inscrit pas dans une transaction, venez pleurer dans nos jupons et donnez l'argent, on va vous défendre. C'est plus, soutenez-nous, nous allons produire des outils d'autodéfense, des outils d'organisation pour que le maximum de personnes puissent agir. Et lorsque nous avons les moyens d'agir par nous-mêmes, on peut commencer à espérer avoir des résultats politiques tangibles. Alors bien sûr, tout ça ne se fait pas gratuitement. Ça a été un investissement massif. Je remercie les donateurs du CGL qui nous ont soutenus depuis le début, qui ont soutenu l'idée même du CGL dans son organisation et sa structuration, mais aussi les outils qui ont été mis en place. Bien sûr, encore une fois, le public qui m'a été fidèle. Je remercie vraiment sincèrement toutes ces personnes que je ne nommerai pas, mais qui m'ont écrit pour me soutenir, parce qu'en ce moment, il y a 4 procès qui me ciblent, justement à cause des enquêtes du CJL, parce que nous avons exposé différentes formes d'injustice, et aujourd'hui, je me retrouve avec 4 procès. Pourquoi ? Ben parce que quand on commence à enquêter, et qu'en plus, le travail d'investigation, malheureusement, est tenu par, excusez-moi du terme, par des blancs qui ne s'intéressent pas toujours aux problématiques qui nous concernent en premier lieu, et qui sont des urgences quotidiennes, on fait ces enquêtes-là, bien entendu. Lorsque vous vous attaquez à des personnes qui sont à des positions de pouvoir, il ne faut pas être surpris si ces personnes-là vous poursuivent en justice. Nous sommes sereins parce que nous n'avons pas été publiés tout et n'importe quoi. Nous avons enquêté, il y a des faits, mais c'est ce qu'on appelle des procédures bâillon. Ça veut dire pour vous arrêter et vous décourager. Je tiens aussi à saluer et à remercier Christophe Rau de France Maghreb qui m'a offert une plateforme toutes ces années. Et je continuerai d'intervenir dans le Grand Forum. Pour ceux qui sont habitués, le jeudi, c'est Loati. Je remercie aussi Maître Besma Maghrebi, qui est mon avocate et qui me défend bec et ongle pour que mon travail et celui du CJL continuent. Et aujourd'hui, je lance ce podcast qui sera bien entendu une plateforme qui n'engage que moi, mais que je veux être une plateforme d'échange entre nous. Alors aujourd'hui, pour commencer, on va réagir au discours d'Emmanuel Macron. On voit bien que il y avait beaucoup d'attentes et après, je ne sais plus, 32 minutes de discours ou 22 minutes, on a eu seulement on a eu une certitude, c'est que le confinement ne sera levé que le 11 mai. Je ne vous mens pas que le discours m'a vraiment mis mal à l'aise, parce qu'on est vraiment face à un constat, encore une fois, une posture jupitérienne, je prends de la hauteur, mais en fait, je ne suis pas responsable des dysfonctionnements. Il reconnaît qu'il y a eu des manquements, il reconnaît que plein de choses ont dysfonctionné, il reconnaît que l'hôpital justement a été exécuté sur l'autel de l'austérité et du dogme néolibéral, c'est-à-dire moins d'État et plus de marché. On voit qu'aujourd'hui, ces mesures-là ne fonctionnent pas et ont provoqué la catastrophe sanitaire d'aujourd'hui. Je crois qu'on a passé le cap des 15 000 décès, malheureusement, au moment où je vous parle aujourd'hui. Maintenant, est-ce que Emmanuel Macron va prendre ses responsabilités ? Apparemment non, puisqu'il dit « Comme vous, j'ai constaté qu'il y a eu des dysfonctionnements. » Déjà, il se met à l'extérieur de tout ce qui n'a pas fonctionné. Oui, mais Manu, tu as été élu. Et jusqu'à preuve du contraire, le président, c'est toi, c'est pas les autres. Si Édouard Philippe a manqué à son devoir et a mal fait son travail, Édouard Philippe, c'est toi qui l'as nommé. Si Ndiaye a menti encore et encore aux Français, il n'en tenait qu'à toi de la limoger et de la remplacer par une personne qui soit plus honnête. Entre parenthèses, tout le monde se rappelle ce qu'elle disait, je suis prête à mentir, c'est pour défendre le président. On voit qu'on a eu une cacophonie totale dans la communication du gouvernement, ce qui a inquiété encore plus les citoyens que nous sommes, mais en plus ça a mis en lumière combien les métiers les plus cruciaux à notre société sont en fait les petits métiers qui ne sont pas considérés, qui sont très mal payés et qui aujourd'hui sont les plus exposés face à la pandémie. Au-delà de la date du 11 mai, il y a des questions qui se posent. D'accord. Après le 11 mai, il parle de déconfinement, de rouvrir certains établissements publics, de renvoyer apparemment les élèves dans leurs établissements. Et après, quand on sait que les élèves se retrouvent dans des classes où il y a 25-30 élèves, est-ce qu'on n'est pas en train de remettre en danger déjà nos enfants, mais en plus de prendre le risque que les contaminations reprennent et que la courbe se remette à grossir ? C'est une question à laquelle il n'a pas répondu. Il parle de donner des masques. On a vu que des masques ont été commandés. Déjà, les Néerlandais ont renvoyé 600 000 masques à la Chine parce qu'ils étaient défectueux. Je crois que c'était aussi le cas de l'Allemagne qui a aussi renvoyé les masques. Et il n'a pas répondu à la question cruciale, c'est comment se fait-il que la France dépende de la Chine pour la production de masques ? Quand on sait que la Chine, malgré les contrats passés, n'a pas hésité à vendre au plus offrant. On est au courant, par exemple, que on a eu des stocks de masques qui ont été achetés par la France, et les États-Unis, enfin les Américains sont venus sur le tarmac de l'aéroport et ont repris la cargaison en payant plus et en cash. Donc on voit bien déjà que nous n'avons pas affaire à un partenaire économique fiable. Je ne parle même pas du fait que la Chine a caché l'émergence du virus, a caché sa propagation, a caché l'étendue de la propagation, à tel point que on a eu le lanceur d'alerte, Dr. Li, puis à son âme, qui est mort, justement en tentant de nous avertir. Et là-dessus, on continue à parler à la Chine et de la Chine comme si c'était un acteur de ce qu'on appelle la mondialisation, un acteur qui serait fiable et qu'on pourrait écouter. Alors là-dessus, Emmanuel Macron ne répond pas. Il nous dit, oui, nous allons distribuer des masques, mais à quelle hauteur ? On sait que les masques doivent être régulièrement changés. Bon, bien sûr, on nous répondra, oui, mais c'est une question secondaire. On trouvera ce qui en est des solutions sur le terrain. Mais ça ne répond toujours pas à comment est-ce que nous allons vivre après le confinement en ce qui concerne les écoles, les établissements scolaires, les lieux publics, les transports en commun, le transport aérien. Qu'est-ce qui va en être aujourd'hui de ceux qui ne peuvent pas télétravailler et qui se retrouvent à devoir travailler sur le terrain et qui sont contaminés? Est-ce qu'on reconnaîtra cela comme des accidents de travail ou en tout cas des maladies professionnelles? Ça, on ne sait toujours pas. Ce qui pose encore une fois problème, c'est qu'on nous a promis un discours churchillien avec une rhétorique de guerre, ce qui est vraiment fatigant. On a besoin d'un discours qui appelle à plus d'humanité dans nos interactions, qui vraiment donne des solutions concrètes. On a eu des bribes ici et là. Emmanuel Macron a parlé du 11 mai. Bon, Castaner est venu par la suite pour dire oui, le 11 mai est un objectif, en tout cas une direction. Mais je ne vous mens pas que, me concernant, je n'enverrai pas mon fils à l'école après le 11 mai. Parce que rien ne me garantit que, en retournant à l'école, il ne sera pas contaminé. On a encore une fois le problème du vaccin. Excusez-moi, jusqu'à preuve du contraire, l'OMS dit que sans vaccin, pas de retour à la normale. Et nous avons l'émergence d'un discours, je n'ai même pas de terme pour le qualifier, qui vous dit, peu importe les morts, il faut redémarrer l'économie. Oui, mais l'économie que vous voulez redémarrer, justement, elle fonctionne sur la mort de 1000 personnes. L'économie néolibérale que vous avez choisie, c'est celle qui a détruit les services publics d'un côté, qui a précarisé les travailleurs, qui a encerclé l'État à tel point qu'il n'a plus de marge de manœuvre sur sa propre économie et sur sa politique fiscale. Vous ne dites pas un mot sur l'évasion fiscale qui nous coûte entre 80 et 100 milliards d'euros par an. Vous ne dites pas un mot sur le CICE qui a coûté 40 milliards aux contribuables. L'abolition de l'ISF qui a apporté à peu près 5 milliards d'euros. Et vous continuez à dire, d'ailleurs on a même eu un discours qui était complètement lunaire, Jean-Michel Apathy qui vous dit oui, il faut redémarrer l'économie, mais surtout cette vice-présidente du MEDEF qui vous dit s'il faut mettre des coups de collier, il faudra les mettre pour que les gens aillent travailler. Non madame, les gens n'iront pas travailler s'ils savent qu'ils sont en danger. C'est le minimum. On ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Donc si le travail mène à ce que la mort vous attende au pied de l'entrée du bâtiment où vous travaillez, les personnes qui travaillent dans des lieux publics, dans ce cas-là, c'est non. Les gens n'iront pas travailler et ce sera leur droit le plus légitime. L'autre question à laquelle Emmanuel Macron n'a pas répondu, c'est celle de la gronde sociale. Un rapport des renseignements intérieurs, qui a été publié, je crois, il y a 2 jours, parlait d'une inquiétude des renseignements territoriaux sur le risque d'embrasement social après le confinement. On se rappelle tous que le confinement a été décrété alors que les gens se mobilisaient contre la réforme de la retraite. Et juste avant cela, il y avait eu le mouvement des Gilets jaunes qui a perduré, bon gré, mal gré. Qu'est-ce qui va se passer après le confinement lorsque d'un côté, vous avez déjà un terreau social qui est hautement inflammable et de l'autre côté, vous dites aux gens, avec une précarisation de vos conditions de travail, vous allez travailler, mais en plus, le danger de mort vous guette. Il ne faut pas déconner. Il y a un moment, on se retrouve dans une situation où ce n'est plus tenable. Alors, bien sûr, il a été assez intelligent pour parler du monde d'après, mais ce monde d'après, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un retour au capitalisme débridé? Est-ce que c'est un retour à un État qui n'est là que pour assurer l'armée et la police? Est-ce que c'est le retour à des politiques économiques qui ciblent la croissance pour la croissance, c'est-à-dire une croissance infinie dans un monde qui est, lui, fini? Les ressources naturelles, ne sont pas infinies. Si on se détourne de ce modèle économique, quel est ce modèle économique vers lequel nous pourrons aller? Les pandémies sont maintenant un risque permanent. Plus nous détruisons l'environnement, plus nous grappillons des terres sur la faune sauvage, plus nous serons exposés à des maladies qui ne posent pas problème à la faune sauvage, mais qui nous sont hautement dangereuses. On ne peut pas constamment dire « oui, mais c'est la faute des chauves-souris ». Oui, mais les chauves-souris ne sont pas venues habiter chez nous. Nous avons été habités sur leurs espaces naturels, et forcément, de côtoyer des animaux qui vivent dans leur environnement de manière sereine, forcément, nous expose à ces maladies. Et donc, est-ce qu'on va continuer à grappiller des terres sur les forêts, sur les lieux où la faune sauvage vit à l'écart des êtres humains, ou pas? Alors maintenant, ce contre-projet, qui est-ce qui va le porter? Est-ce que ce sera la gauche contestataire? Auquel cas, est-ce que cette gauche a elle-même fait preuve de solidarité? On sait bien que non. Nous concernant, la gauche a toujours fait preuve soit de mépris, soit de paternalisme, soit littéralement de racisme ouvert. Et quel est ce projet de société que nous pourrons porter en tant que musulmans, en tant que noirs, en tant qu'arabes, en tant que roms, en tant que juifs, en tant qu'habitants des quartiers populaires? Quel est ce projet de société plus solidaire qui pourrait être porté avec ou à l'encontre d'une gauche qui, fondamentalement, se pense être le centre du monde contestataire, la seule bien qui serait à même de porter une société plus équitable et plus juste, alors qu'on sait que dans ces interactions au quotidien, cette solidarité n'est pas nécessairement présente. Quand on voit comment ça fonctionne, bon, les partis de gauche, je n'en parle même pas, mais les grandes organisations de gauche, pour les avoir côtoyées, nous ne pouvons pas dire qu'elles ont été exemplaires en termes d'application de la solidarité et contre-proposition d'une société plus inclusive, plus ouverte, plus juste, plus solidaire et plus viable. Ce monde d'après ne pourra pas voir le jour ou émerger avec des idées anciennes, avec des clivages anciens. Il va bien falloir porter de nouvelles idées, et qui dit nouvelles idées, ça veut dire des nouveaux acteurs. Et ces idées peuvent être portées non seulement par des travaux de recherche, par des conférences, par des publications communes. Et en parlant de publication, j'aimerais parler du livre de la journaliste d'investigation Asna Alouache, qui s'appelle « Elle toute ». On l'avait déjà connue pour son livre « Les fruits de la Hogla » lorsqu'elle a couvert la révolution tunisienne. Et aujourd'hui, elle publie un livre qui vraiment nous parle en cette période de confinement. On a eu une explosion de 30% des violences conjugales. C'est énorme. Déjà que le plateau était déjà extrêmement élevé pour un pays comme la France. Donc Asna Alouache a publié un livre qui s'appelle « Elle toute » où justement elle recense les cas de féminicide. Elle a épluché 150 rapports d'autopsie, c'est-à-dire des cas confirmés de femmes mortes sous les coups de leur conjoint. Elle a mené une enquête justement pour savoir ce qui s'était passé en amont et en aval, qu'est-ce qui a rendu possible le meurtre d'une femme dans beaucoup de cas. Comment est-ce que ça a été possible alors qu'elle s'était plainte et qu'elle avait souvent appeler à l'aide aussi bien les autorités que le système judiciaire. Elle retrace aussi le parcours des unes et des autres. Son interview sera publiée sur le site du CJL, cjl.ong. J'aimerais vraiment vous recommander ce livre parce qu'il humanise des statistiques que nous regardons de manière assez froide, assez cynique, parce que nous sommes bombardés d'études et de statistiques au quotidien. Non, là, ce qu'a fait Mme Alouache aujourd'hui, c'est vraiment reprendre les cas de féminicide. Qu'est-ce qui les a rendus possibles? Quels sont les dysfonctionnements, aussi bien des commissariats qui refusent de prendre les plaintes, que du système judiciaire qui expose ces femmes à plus de violence et justement, in fine, permettent la mise à mort de ces personnes-là? Alors, Ce livre-là, il est important parce que pour la première fois, nous avons un rapport, une enquête massive au niveau national qui reprend les noms, qui reprend les lieux, qui reprend les histoires personnelles de ces femmes et surtout qui impose une rigueur dans la méthode qu'on ne peut pas contester. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une revue de presse ou d'amalgamer des coupures de presse. Non, là, c'est littéralement, elle a été enquêtée. Le travail a duré un an. En plus, là où son travail est vraiment salutaire, c'est qu'elle a mis sur pied un site internet avec un moteur de recherche pour retrouver les cas de féminicide classés par date et par département. Ce sera extrêmement utile justement pour non seulement humaniser encore une fois ces femmes mortes sous les coups de leur conjoint, mais en plus que des personnes comme nous puissions nous identifier à elles, c'est-à-dire si vous faites une recherche et vous voyez qu'une personne, une femme a été tabassée par son mari et qu'elle est morte sous ses coups, si vous voyez qu'elle est morte à quelques kilomètres de votre domicile, forcément ça vous parle beaucoup plus que si c'était un chiffre qu'on vous balance et ensuite qu'on repasse par un autre. Là, c'est extrêmement important de pouvoir non seulement lire ce livre, mais en plus de le faire lire par le plus grand nombre. Là où Asna Louache nous a vraiment épaté, c'est qu'elle s'est vraiment inscrite dans une démarche solidaire. Elle a choisi l'auto-édition. Aucun éditeur ne voulait accepter que la totalité des gains soient reversés à une association. Elle l'a fait en éditant son livre sous ses propres deniers. Bien sûr, le livre est disponible sur Amazon. Malgré ce qu'on pense d'Amazon, sachez que tous les gains de ce livre seront reversés au centre dont j'ai oublié le nom, je vais vous le dire. Voilà, le centre Flora Tristan, qui justement accueille les victimes de violences conjugales et leur offre un foyer, ne serait-ce que temporaire. Et c'est extrêmement important pour nous de soutenir ce travail d'enquête en achetant ce livre, mais surtout en disséminant les informations pour qu'on se rende compte que les violences conjugales affectent toutes les femmes, que ce n'est pas une question de classe ou d'origine, ça transcende la société française et qu'en plus, nous faisons face à des gouvernements successifs qui ne savent pas aller au-delà du marketing politique. On va avoir des communications de vrai politique, Grenelle et je ne sais quoi. Mais lorsque vous avez, par exemple, un cas, parce que c'est vraiment un cas qui m'avait marqué, vous avez le cas d'une femme qui appelle à l'aide, elle appelle le commissariat, les gendarmes se pointent au domicile, frappent à la porte et, n'ayant pas réponse, rebroussent chemin. Sauf que cette femme-là, malheureusement, était en train de se faire tabasser, elle était en train de succomber sous les coups de son conjoint alors que les gendarmes étaient à la porte du domicile. Et donc, on voit bien, il y a cette espèce de légèreté avec laquelle on traite les violences conjugales qu'on ne peut plus laisser faire. Puisqu'on voit bien que, à force de ne pas prendre la question au sérieux, on minimise, on déshumanise et, in fine, on laisse le nombre exploser. Donc, je vous recommande fortement le livre Elle Toute, disponible sur Amazon, écrit par Asna Alouache. Vous verrez le lien dans le descriptif. Nous concernant, je vous remercie sincèrement d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez surtout pas à écrire vos commentaires, à envoyer vos questions, ou bien sur la page Facebook, ou bien sur la chaîne YouTube. Voilà, envoyez vos suggestions. Si vous pensez qu'il y a des informations sensibles, vous m'envoyez directement un message par la messagerie interne de Facebook. Vous inquiétez pas, l'anonymat sera toujours respecté. Là-dessus, vous pouvez me faire confiance. Me concernant, je vous dis à très bientôt et nous commenterons encore une fois l'actualité. Je n'ai pas encore décidé à quelle fréquence. Tout dépendra de mes capacités et de vos attentes. Encore une fois, merci de votre attention, merci de votre soutien et je vous dis à très bientôt.